Vous écoutez
RMC.
RMC.
I recoup the ball and Memphis give me a good pass after I shoot and I score.
Alors my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good?
Tu rendi compte si tu poses una question a un supporter italiano che dans quelques années? Ciao, grazie ancora et congratulations pour la sua carriera.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à tous et à tous. Et oui, l'After est là, comme tous les soirs jusqu'à minuit sur RMC. L'After, la seule émission en direct à la radio, 7 jours sur 7. Et bonjour à toi qui nous écoute en podcast avec Stéphane Guy ce soir. Bonsoir, cher Stéphane. Citoyen, bonsoir. En face de toi, Florent Gautreau. Bonsoir, Flo Gautreau.
Salut à tous, salut aux amis du bémol.
C'est ma première de la saison avec toi. C'est un plaisir de te retrouver, Flo.
Moi aussi.
Toujours en podcast.
Plaisir partagé, mais j'écoute Génération After.
T'écoutes Génération After aussi.
Ouais. En entier. Hein.
Tu pourrais presque l'intégrer, mais t'as 10 ans de trop.
Ouais.
Voire 15.
Bon, 32 ans, c'est, on n'a pas le droit quand on a 32 ans d'intégrer Génération After.
Et je te souhaite bon anniversaire avec quelques jours de retard, Flo. On l'a manqué, c'était là jeudi soir pourtant. Voilà, bon c'est anniversaire fait. À toi, Flo.
Merci.
Ça va être dense, messieurs, ce soir dans l'After. On a plus d'une heure pour débriefer ce Reims-Marseille et la victoire de l'OM de Buzyn. Revenir sur la nouvelle défaite du Paris Saint-Germain, la deuxième contre Rennes en deux mois, dans une forme de normalité qui peut inquiéter. Et d'ailleurs, on vous attend nombreux supporters parisiens au 32-16, surtout ceux qui étaient au Parc des Princes, pour nous parler de l'ambiance. Atone, timide, quelques sifflets tout de même. Racontez-nous un petit peu comment vous vivez ces matchs au Parc des Princes également. La victoire de Monaco au programme également à Ajaccio. Le troisième match nul de Nice. Le magicien MDZ qui a totalement relancé Montpellier. On prendra le temps d'en parler en fin d'after. Et également le Barça-Real. Alors qu'il reste 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Toujours un partout entre Barcelonais et Madrilène. Fred Hermel sera avec nous en fin d'after pour débriefer ce match. Vous connaissez le principe, vous nous appelez au 32-16. Le hashtag RMC Live, l'application RMC Sport à télécharger si ce n'est pas déjà fait. Direct Studio pour envoyer vos commentaires. Et on commence comme tous les dimanches soirs par les 3 points. C'est parti.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Ouais.
Mais d'abord, les gars, un but dans le classico contre le Barça de Real. Arnaud Souk aux commentaires. Salut Arnaud. Arnaud Souk, es-tu là, Arnaud?
Un but de Marco Asensio pour le Real Madrid qui revient donner l'avantage aux Madrilènes dans cette rencontre à moins de 10 minutes de la fin du temps réglementaire sur la pelouse du Barça. C'est ce qu'on appelle un coaching gagnant puisque Marco Asensio venait tout juste de rentrer en lieu et place de l'Uruguayen Federico Valverde et le voilà récupérer un ballon un petit peu cafouillé par la défense barcelonaise dans la surface. On voit là, ça a été un petit peu dans tous les sens et Marco Asensio qui reprend. Je sais pas s'il va pas être revisionné pour hors-jeu, pour l'instant c'est pas le cas d'ailleurs, mais il me semble que c'est quand même tout juste, en tout cas pour l'instant. Ça fait 2-1 pour le Real à 9 minutes de la fin.
2-1 pour le Real, effectivement, à moins de 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Tu nous diras si ce but est bien confirmé.
A priori, c'est validé.
C'est validé. Allez, 2-1 pour le Real hein, qui relancerait un peu de suspense en tête de la Liga. Il se retrouve à 12 points. Reviendrait à 6 points du Barça à 10 journées de la fin. On en parlera avec Fred Hermel tout à l'heure. Les 3 points, c'est parti. Je commence avec toi, Flo. Avec le micro ouvert, c'est encore mieux.
Et je l'avais coupé pendant le Arnaud Souk. L'OM, victoire importante parce que après la défaite du PSG, puis par rapport à la fin de saison et à ce qu'avait montré l'OM récemment, c'est une victoire capitale, pas simple, contre une belle équipe. Et je trouve que Reims, d'ailleurs, qui a donné beaucoup de belles choses ces temps-ci, a trouvé son maître, on en reparlera. Mon deuxième point, c'est Alexis, parce que je vais quand même, Alexis Sanchez, faire un point. Un focus sur lui et qui est pour moi un peu l'anti-Messi, c'est-à-dire que c'est une vedette, c'est quelqu'un qui a un certain âge, qui est venu à l'OM mais qui est pas venu pour faire des gaufres, il est venu pour bosser et il le montre et je trouve que son attitude est un exemple pour tous les footeux autour de lui et les grands footballeurs. Et puis le troisième point, c'est le PSG. C'était pas le Parc des Princes, c'était le Père Lachaise et ça m'inquiète, ça m'a fait de la peine pour les supporters. Et puis je pense que Galtier peut pas rester. Voilà, on en reparlera. Mais,
dès maintenant, il faut arrêter avant la trêve internationale.
Je vois pas. Alors, moi, je sais pas. On va en parler évidemment pour la fin de saison, mais je ne vois pas comment il peut pas y avoir quelque chose qui se passe, un électrochoc. D'autant que même lui, qui était très fort en com jusqu'à présent, devient mauvais et s'en prend régulièrement, même si ce soir c'est pas très clair aux plus jeunes de l'effectif parce qu'il n'arrive pas à s'en prendre au cadre.
Ouais.
Donc voilà, on en reparlera, mais je pense que Galtier peut pas vraiment rester à la tête de cet effectif.
Stéphane, tes 3 points.
Moi je vais contrairement à Florent dire que c'était un très bel après-midi pour le Paris Saint-Germain, j'expliquerai pourquoi. Je me dis très réussi pour le PSG. Après, le deuxième point, ce sera sur l'Olympique de Marseille, qui s'en sort bien, mais qui n'avait qu'un objectif, c'était le résultat. Il n'y avait pas une question de style, de manière sur ce match-là. Ils se sont fait secouer par une très belle équipe de Reims, mais ils ont gagné, c'est évidemment fondamental. Et puis sur l'importance du week-end de Ligue 1, c'est Lens qui, à mon avis, va devenir l'équipe à battre de cette fin de saison. Je les sens très forts, les Lensois.
Voilà pour le trop mal de Stéphane et de Flo, on va les développer, on vous attend nombreux au 32-16, tiens à l'instant, but annulé du Real, on reste un partout, à la 84e minute de jeu, un hors-jeu de quelques millimètres, les gars. Voilà. Il n'y a rien du tout, mais il y a hors-jeu.
La justice est faite.
Justice est faite.
Ah oui, hors-jeu.
Oui, c'est la règle, mais... effectivement. Bon, allez, j'accueille Marco. Marco, 32-16, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut Marco.
Bonsoir les gars.
Bienvenue dans l'after avec Stéphane et Flo. Victoire de Marseille qui fait tomber un Reims invaincu depuis 19 matchs, depuis un demi-championnat.
Depuis un match contre Monaco. J'ai regardé ça parce qu'on se demandait quelle était la dernière défaite de Reims. C'était en septembre contre Monaco, à domicile déjà.
Et qui n'encaissait plus de but depuis 6 matchs également. Donc, double performance pour l'Olympique de Marseille. Marco.
Eh ben écoute, pour faire sauter le verrou du stade de Reims, il a fallu Alexis Sanchez. Et moi, ce soir, ce que je retiens, le premier truc qui me vient à l'esprit dans ce match, c'est performance triple X7 du joueur. Il était au four et au moulin en première mi-temps. Il met ses deux buts et c'est surtout le deuxième, en fait. C'est là que tu te dis, si on a des joueurs qui sont un peu plus observateurs de ces appels de balles, mais des buts comme ça, il aurait pu en mettre 4-5 depuis le début de la saison parce qu'il arrête pas de faire des appels de balles dans tous les sens. Et puis en première mi-temps toujours, le ballon qu'il donne à Under, si Under il avait un pied, que ce soit le droit ou le gauche, peu importe, ça aurait fait une passe D en plus. En deuxième mi-temps, il revient, il récupère des ballons, il va cascailler les défenseurs, il est à deux doigts encore une fois de donner un ballon de but à Unai. Enfin voilà quoi, ça fait des années qu'on cherche un grand joueur à l'Olympique de Marseille, vraiment le joueur en fait qui est au-dessus du lot et qui nous fait vibrer, et on l'a en fait. C'est lui, c'est clair, et depuis le début de la saison, il est irréprochable, je vois pas en fait ce qu'on peut reprocher à ce joueur et je suis convaincu que la direction du club le sait très bien et que ça doit être une priorité de le faire prolonger au moins une saison de plus.
C'est marrant parce que Florent Germain a dit récemment sur BFM Marseille, puis il l'a redit aujourd'hui, qu'il pensait que c'était le meilleur joueur de l'OM sur les 5 dernières années. Puis maintenant, il a dit sur les 10 dernières années.
Mais je suis 1000 fois d'accord
avec lui. Et c'est vrai que je suis assez d'accord et je voulais effectivement insister sur ce qu'il fait parce que quand j'étais allé à Rennes-Marseille au stade, je m'étais amusé à faire une cam isolée sur lui. Et il râle beaucoup. Après ses partenaires, il est vraiment dans une exigence permanente pour lui-même et pour les autres. Je pense quand même qu'il, évidemment, il l'avait dit d'ailleurs, il souffre du fait, et ça explique un peu ce que tu dis sur ses appels d'être seul devant, enfin de jouer seul devant. C'est vrai que je pense qu'il se régalerait encore plus à avoir un joueur plus proche de lui. C'est pour ça qu'on pensait que Vitinha allait peut-être être celui-là, c'est pas le cas. C'est quand même un manque, je pense, même pour lui. Parce qu'il fait beaucoup d'efforts, et après, il est souvent saoulé effectivement quand Tavares lui redonnait pas un ballon qu'il a demandé, quand Under traduit pas ce qui lui a passé. Il a une attitude de gagneur et évidemment une grande qualité, mais la qualité technique qu'il a montré sur ce coup franc qui est absolument exceptionnel, on la connaît, on sait que c'est un très bon joueur. C'est plutôt tout le reste dont t'as parlé qui est impressionnant. C'est toutes ces courses de replacement entre les deux défenseurs. Le défenseur ne peut pas être tranquille. Ce qu'il a fait Abdelhamid quand il appelle le ballon avant Lopez, il lui demande le ballon.
Oui.
Il le met. Moi, je pense qu'Abdelhamid fait quand même une grosse erreur de défenseur central
mais
t'as raison. C'est dans l'attitude. C'est pour ça que j'ai dit anti-Messi. On va dire, on rapporte tout au PSG. Mais c'est quand même pour situer. T'as un gars qui a une grosse carrière, qui a une grosse carte de visite, qui vient à Marseille, qui met la pression même.
Il a 34 ans.
Il a 34 ans. Donc quand il arrive, honnêtement, on se dit oui.
Et que tout le monde croyait qu'il était fini.
On espère. Moi, je me souviens, on a fait des débats, on disait non, moi, c'est top, parce que c'est un grand attaquant. Mais t'as effectivement la crainte de dire ah bah ouais, on l'a pris trop tard, il est arrivé à 34 ans, je parle de France. C'est pas le cas. C'est remarquable, c'est génial pour l'OM, mais c'est surtout génial pour la Ligue 1, parce que je trouve que voir que des joueurs comme ça peuvent avoir cette attitude-là, ça nous réconcilie un peu avec ce qu'on peut voir par ailleurs. Quoi.
Mais en fait, moi, ce que j'aime quand tu parlais de son attitude, c'est que c'est avec des joueurs comme ça que justement l'OM peut refranchir ce cap de revenir dans une sorte de bataille, le gros outsider du Paris Saint-Germain en championnat. C'est avec des joueurs comme ça, avec cette exigence-là autour de lui, comme tu disais, il râle beaucoup, mais tu connais beaucoup d'attaquants qui ne râlent jamais. Enfin, pour moi, c'est ça va avec. C'est le joueur, il fait énormément.
Non, mais t'as raison de souligner que le jour où on a vu beaucoup de fatalisme, comme tu disais, Nico, tout à l'heure pour le PSG, y compris chez les joueurs, supporters, joueurs, une sorte de fatalité, un peu de l'échec, de la défaite, une acceptation du fait que ça se passe pas bien, et puis voilà, ben on voit tout l'inverse. Après, mon bémol sur la saison de l'OM et ça, c'est quand même que une saison où le PSG est aussi mauvais.
Ils sont à 7 points quand même.
Ouais, 7 points d'avance.
Ce soir, ils sont à 7 points du PSG.
Non, mais aussi mauvais, je parle sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils sont prenables, entre guillemets, cette année. Ouais. C'est dommage que l'OM, et c'est peut-être dommage aussi qu'effectivement, il n'y ait pas eu ce petit changement de style qu'on attendait avec ce deuxième attaquant, peut-être, comme tu le dis, qui n'est pas venu. Voilà, il ne veut pas jouer comme ça, tu dors pour l'instant.
Ouais, mais.
Non, mais je veux dire par là, est-ce qu'il n'y avait pas mieux, encore un peu mieux à faire pour
ils ont raté le match qui aurait pu les mettre dans la course face au PSG.
C'était quand même l'année où. Enfin, l'année où jamais, il ne faut pas dire ça avec le PSG, mais. Une année quand même.
Ouais, mais c'était une année où. C'était une année où, ouais.
Ouais, c'était une année où ils étaient prenables, mais c'est. En fait, c'est
pas fini, hein, il reste 10 matchs, il reste 30 points à prendre, 7 points d'écart, Stéphane. Je sais pas si vous en pensez, les gars.
C'est pas fini, mais enfin, tu connais les grands championnats, tu sais que.
Ça me rappelle un 96. Ça doit être le dernier cas où il y a un truc comme ça, Auxerre et PSG.
Moi, je veux dire, je pense que l'OM a vécu le match de ce soir comme ça. Pardon, je t'écoute.
J'ai eu la stat à vérifier, mais je crois de mémoire, quand j'avais vécu ça, Auxerre et le PSG en 96, où à un moment donné, tu te dis, c'est mort.
Exactement,
le PSG perd tout.
Énorme.
C'était craché, donc bon.
Mais... Stéphane, vas-y. Et surtout, Auxerre avait été champion avec 8 défaites, je crois. Ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du foot, quoi. Donc, c'était une année très particulière. Faudrait qu'on regarde le nombre de défaites, mais je crois que c'était à peu près ça. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont dû jouer ce match en pensant moins au PSG qu'à Lens, qui est quand même un vrai challenger pour la deuxième place, pour l'OM. Le Lens qu'on voit en ce moment, il est plein gaz, hein. Et bon, oui. Après la trêve, on aura un Rennes-Lens qui va être très excitant, et évidemment, à vivre. Et l'OM aura la chance de jouer 24 heures avant, donc de pouvoir face à Montpellier à domicile
en mettre la pression. De celui qui met la pression, ouais, tout à fait.
Mais l'OM n'est pas assez performant. La déception et l'incompréhension, voilà,
la difficulté est là.
C'est d'être plus performant à domicile, parce que quand tu gagnes 8 matchs de suite à l'extérieur, c'est colossal comme performance.
Ouais, mais parce qu'il bénéficie quand même à l'extérieur, on l'a vu aujourd'hui, d'équipes qui quand même sortent un petit peu plus que celles qui viennent au Vélodrome, et qui donc leur donnent aussi à eux la possibilité d'aller contrer, d'aller du moins avoir un peu d'espace. Faut reconnaître que parfois ça a été compliqué au Vélodrome.
Flo, je te coupe, but du FC Barcelone, très important dans le temps additionnel, Arnaud Souf.
Ça sent le titre pour le FC Barcelone, les Barcelonais qui viennent de marquer par l'intermédiaire de Franck Kessié, l'Ivoirien, et le Barça qui mène 2-1 à 3 minutes 40 de la fin de cette rencontre. Et bien voilà, le Barça qui était mené 1-0 et qui a réussi à revenir la vapeur. Actuellement, les Barcelonais ont 12 points d'avance tout en haut de la Liga sur leur dauphin, le Real Madrid.
La magie de la VAR, il y a 3 minutes, le Real menait 2-1. Finalement, c'est 2-1 pour le Barça. À 3 minutes de la fin du temps additionnel, on aura Fred Armel pour en parler. Effectivement, 12 points. C'est abyssal comme écart entre le Barça et le Real. Flo.
Non, juste un peu rebondir sur ce que disait Stéphane sur Lens. Je dis au René, rappelez-vous ce qui s'est passé quand la première fois que vous avez battu les Parisiens. Tout le monde a dit waouh, c'est bon, performance XXL, alors que c'était aussi dû à une contre-perf déjà du PSG. Et derrière, quand ils ont pris l'OM, ils ont pris cher. Et comme dit Stéphane, Lens en ce moment, c'était pas le cas il y a 4-5 matchs, retrouve ses buteurs, Openda, Fofana, enfin ses joueurs clés, cadres. Et donc je dis à Rennes, teste grandeur nature. Et ce qui s'est passé aujourd'hui au Parc ne sera pas suffisant pour espérer battre Lens. Il va falloir plus que ça, et peut-être même encore tactiquement inventer autre chose, parce qu'il avait inventé un truc, la Genesio, aujourd'hui.
Encore on en parlera, autre chose. On en parlera après. Ouais. Ouais.
Bon, Marco, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur Marseille?
Le simple fait qu'on n'arrive pas à choper les bons moments, toutes les opportunités qu'on a eues en termes de points, en termes de matchs, c'est aussi dû, et je l'ai dit plusieurs fois dans la saison, à la médiocrité malheureusement de certains de nos joueurs qui nous coûtent cher. Moi, je pense au week-end dernier, voilà, on prend deux buts, les deux buts, ils viennent à chaque fois du même côté, du côté de Tavares. C'est un exemple, mais voilà, des exemples comme ça, que ce soit sur Tavares, que ce soit des occasions ratées avec des Wunder, que ce soit des erreurs individuelles, des manques de concentration, toujours des mêmes joueurs. C'est ça aussi qui nous.
C'est qui est étonnant, c'est que Marseille est aussi étonnant, bluffant dans sa capacité de réaction, comme ce soir étant mené à 1-0, que dans ses faillites collectives parfois qu'on voit depuis un mois et demi. C'est une équipe assez déroutante, hein, qui se donne beaucoup, on l'a dit, hein, avec le style Tudor. Capable de sombrer sur 20 minutes, comme d'être génial, bien que mené à 1-0.
Mais avec des stats quand même pour Tudor, pour le coup, impressionnantes au final. Hein, parce
le nombre
que
de points, c'est phénoménal.
C'est une belle saison. C'est presque cet effectif reconstruit, on va dire, par Longoria une nouvelle fois et avec un nouvel entraîneur. C'est peut-être presque arrivé effectivement trop tôt par rapport à la médiocre saison du Paris Saint-Germain. On aimerait presque un OM déjà un peu plus mature dans le changement, dans ce changement-là, que cet OM-là à qui on sait qu'il manque deux, trois choses, pour lequel même Tudor lui-même dit, quand on lui dit vous êtes un peu conservateur, pourquoi vous ne faites pas jouer plus Unai, Vitinha, ce que bon, moi j'appelle de mes voeux, mais c'est lui le coach et ça marche, faut reconnaître. Bah, il dit je fais jouer les meilleurs. Il se prend pas la tête, il te dit je fais jouer les meilleurs pour que ça gagne, pour gagner le match. Ok. Après, il y a effectivement un doute sur Nuno Tavares, mais il n'a pas forcément beaucoup de solutions.
Marco, merci d'avoir fait le 32-16.
Merci à vous, les gars. Passez une bonne soirée.
Tu me rappelles quand tu veux, évidemment. Excellente soirée à toi. Tiens, j'accueille Rémi au 32-16, également supporter de l'Olympique de Marseille. Salut, Rémi.
Bonsoir à tous.
Bienvenue dans l'After. Stéphane et Flo sont à mes côtés. Tu retiens quoi de la victoire de ce soir?
Les trois points.
Ouais, évidemment, bien sûr.
Et Alexis. Ouais, mais réellement. Et Alexis Sanchez qui, de par son talent, nous sort de là. Mais moi, j'étais quand même, quand j'ai appelé au standard, j'étais quand même un peu plus nuancé, en fait. Parce que moi, sur mon canapé, personnellement, à part la victoire, je vibre plus vraiment devant Marseille. Et en fait, j'ai appelé pour dire que si on regarde bien dans le jeu, ça fait combien de temps qu'on n'a plus mis de but? Parce que ce soir, la passe de Paul Lopez pour Sanchez, c'est pas une action pour moi. C'est
ouais.
Et si on regarde bien, on marque donc sur le coup franc, on marque avec Sanchez le dégagement de Paul Lopez. Le match d'avant, c'est Strasbourg, il y a un pénalty, il y a un coup franc repoussé, c'est Bemba qui marque. Le match d'avant, c'est le coup franc vite joué pour Kolasinac.
Arène.
On est dégueulasse. Exactement. Dans le jeu.
Et, ce jour, c'est très bien payé, hein. c'est 19 tirs à 12 hein, pour Reims.
Bien sûr.
19 tirs à 12.
Et du coup, pour en revenir à ça, exactement, c'est très bien payé. C'est qu'en plus, d'un coup, on se met à reculer, ce qu'on a fait aussi au match contre Strasbourg. On était à 10, donc c'était un peu différent. Même s'il y a 2-0, on aurait pu éviter de reculer. Mais Annecy aussi, on s'est mis le feu tout seul. Et en fait, quand on recule, on se rend compte que Sanchez, il est bon pour plein de choses. Et heureusement qu'il est là, mais il ne va pas faire des courses de 40 mètres. Donc en fait, on devient inoffensif. Mais vraiment, on n'est plus du tout dangereux quand on joue bas. Donc en fait, je me dis... Là, on recule, on n'est pas capable d'être dangereux en contre-attaque. Donc, en fait, à part que la défense adverse, elle monte au milieu de terrain en se disant « on ne craint plus rien ». Donc, ils jouent dans notre camp pendant 15 minutes. Et avant, ce qui faisait notre force, c'était de mettre le feu, justement, à un moment donné, de jouer haut, le pressing, et on arrivait à marquer dans le jeu. Et là, même dans nos temps forts, on n'arrive même pas, sauf sur, comme je vous l'ai dit, sur les coups de pied arrêtés, tout ça. Donc, en fait, je suis inquiet sur la fin de saison, parce que quand je vois Lens, même Monaco, c'est un coup oui, un coup non, mais au point de vue comptable, ils sont là. Je me dis, si on doit jouer tous nos matchs de manière, excusez-moi l'expression, dégueulasse jusqu'à la fin de saison, je suis un peu inquiet quand même pour aller chercher la deuxième place.
Ouais, l'équilibre est fragile pour l'instant.
Ouais. Là, t'étais en fin de séquence, hein, avant la trêve internationale, sur une période qui a été riche, qui a été compliquée par l'OM, qui a laissé. Elle a laissé beaucoup d'énergie en route, donc je pense que c'était pas la note artistique qui comptait vraiment ce soir. C'était vraiment et face à une équipe en plus qui était elle en pleine bourre, hein, et qui l'a été ce soir, qui a fait un très bon match. Hein, attention, hein, si on compare, moi qui aime bien comparer les budgets, si tu veux que tu compares le budget de l'OM et le budget de Reims, tu dis chapeau ce que font les Rémois.
Si Balogun l'a mis à la fin et touche pas le poteau, on analyse.
Il y a deux poteaux.
C'est un match nul pour lequel il y a rien à dire, ça c'est vrai. Après, ils ont été un peu quand même. Les Rémois, ce que je disais au début, ils ont un peu trouvé leur maître parce qu'ils ont mis une intensité folle. Je trouve que leurs 20 premières minutes étaient très bonnes et ils regardaient Marseille dans les yeux. Et que quand même, c'est là la force de l'OM. L'OM a dans son intensité aussi des joueurs encore plus capable de faire mal. Et à un moment donné, Reims a baissé de pied.
Mais moi, en deuxième mi-temps, quand même.
Les gars, on fait une pause rapidement pour dire que c'est terminé entre le Barça et le Real. Arnaud Souk, rapidement, s'il te plaît.
Et ce quatrième classico de la saison accouche d'une victoire du Barça 2-1. Victoire très importante. Les Blaugrana qui prennent 12 points d'avance en tête de la Liga sur le Real Madrid. Les deux clubs qui se retrouveront dans deux semaines pour le match retour de demi-finale de Copa del Rey.
Merci Arnaud, bonne soirée à toi.
Ça fait quand même, Nico, 4 affrontements, 3 victoires du Barça cette saison.
Tout à fait, 12 points. Allons, on écoute Igor Tudor en conférence de presse.
Dressing room in half time, so it's, we are lucky to have him here. But first of all, I need to make congratulations for the team because what I said before the game.
Je voudrais remercier et féliciter mon équipe.
In the French and winning here is not for everybody.
Gagner ici, c'est pas donné à tout le monde.
Ouais,
et
de gagner.
Et il expliquait que la première mi-temps, il avait été très content, moins de la deuxième, si j'ai bien compris.
Bon, on va écouter Igor Tudor qui est traduit. Stéphane, tu n'auras pas.
Tant mieux.
Tu n'as pas besoin de passer derrière le bon Igor. Traduction en français dans la foulée. Marseille qui s'impose 2-1 à Reims, qui est donc seul deuxième de Ligue 1 avec 2 points d'avance sur le Racing Club de Lens. Deuxième question pour Igor Tudor en conférence de presse.
What did you appreciate tonight in your team?
No, good spirit.
Qu'avez-vous apprécié dans votre équipe aujourd'hui? Voilà.
Good mentality.
L'esprit, la mentalité.
Ouais.
Because it's not easy when you are, you know, like you have this 2-1. We wanted a little bit, we stopped a little bit to play because we wanted to keep this result, you know. So
c'est facile parce que on a tendance parfois à vouloir gérer le résultat quand on mène 2-1.
They have few opportunities, but I think it was a nice game, yeah, generally.
Un bon match en général. Voilà, on va laisser Igor Tudor là-dessus, les gars. On fait une pause, on revient encore sur Marseille. Un petit mot de Reims, quand même, parce que c'est un événement. Reims, eh bien, série terminée. C'est une catastrophe. Reims en crise ce soir. 19 matchs sans défaite.
Et voilà, Reims qui perd. Ce n'est plus un vain style.
Exactement. Rémi, je te remercie.
Steve doit-il rester à la tête de l'équipe?
Très bonne fin de saison. Tu nous rappelles d'ici là, bien sûr, hein, dans l'after. Le 32-16 est ouvert, comme tous les jours, tous les soirs sur RMC. Très bonne soirée à toi, Rémi. On prolonge sur Marseille, Reims, Paris au programme, bien sûr, Rennes également. La victoire de Bruno Genesio, qui est l'homme qui a le plus battu le PSG depuis l'arrivée des Qataris en 2011 à Paris. On va en parler, on vous attend nombreux supporters parisiens, Rennais au 32-16, Monaco au programme également, un mot sur Nice, Montpellier, le Barça Real, le Barça qui s'impose de 2-1, quasiment sacré, hein, champion cette saison en Liga. Fred Armel sera avec nous, l'after se poursuit sur RMC 23h, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot,
Nicolas Jamin.
23h passées de 3 minutes avec Stéphane Guy et Flo Gautreux. Je vous rappelle à l'instant la victoire du Barça 2-1 face au Real Madrid. Tiens, Igor Tudor, encore une réponse tiens, du patron de l'Olympique de Marseille. Victoire 2-1 ce soir à Reims.
Le gagner 8 fois.
Oui.
8 victories in a row.
Yeah, 8 victoires d'affilée à l'extérieur.
It's a fantastic thing, you know, like.
C'est fantastique. Ça vient de traduire ça.
We need to continue like this.
C'est fantastique, il faut continuer
jusqu'à 10.
Hein,
les mots français
d'Igor
Tudor.
We speak a lot of time about this, you
know. So, on a parlé
de ça. And always he's asking this question.
Igor Tudor a ri, les gars, en conférence de presse. L'autre événement de la soirée, on l'a vécu en direct sur RMC dans l'after.
Maintenant, il faut faire réussir.
Allez, on en reste là avec Igor Tudor.
Il faut réussir à faire rire maintenant Alexis Sanchez. Et ça, pas gagné.
Ah, il a souri sur son
coup. Il sourit, mais. C'est un peu Buster Keaton. Hein,
t'as raison, c'est exactement ça. J'aurais bien vu en muet, en noir et blanc.
Avec sa petite moustache à la Jean Dujardin dans.
Ou Brigade du Tigre, autrement, ou The Artist, t'as raison.
The Artist plutôt, parce que Brigade du Tigre, c'était plus des moustaches.
Oui, à Thiriez.
À Thiriez, ouais. Non, juste pour revenir sur le jeu, justement, c'est intéressant de voir que ce qu'on réclame quand on dit qu'on veut un peu de Vitinha ou d'Unai, c'est que c'est pas seulement le fait de mettre un deuxième attaquant à côté d'Alexis, c'était aussi de voir un petit peu de joueur technique, parce que on a beau dire, ce qu'il aime, c'est le muscle et l'intensité. Quand tu regardes l'équipe, il a pas tort sur notre auditeur de tout à l'heure qui parlait des buts et de la description des buts récents. C'est vrai que dans le jeu, t'as pas le meneur de jeu, quoi. T'as pas celui qui distribue les ballons. Donc tu te retrouves avec Guendouzi au milieu de terrain. T'as Rongier, Vertu qui font le job, c'est indéniable. T'as Klaus dans les couloirs. Bon, t'as Nuno Tavares, on en parlait. Il y a une stat qui tombe, là, je vois Thibaut Leplat qui a retweeté ça, il a 28 ballons perdus. 28, la plupart, au max, t'es à 15. Tu sais, il y en a, Guendouzi en perd très peu, par exemple, ce soir. Bon, peu importe. Bon, voilà, ça c'est un détail pour dire quand même qu'il le maintient. il le met titulaire parce qu'il sait que par contre il lui apporte beaucoup dans l'intensité, dans les courses. C'est aussi un peu la limite, je reconnais là aussi, puisqu'on parle foot, on peut apprécier cette intensité, ces résultats, ce qui se passe à l'OM aujourd'hui, tout en disant effectivement que ça manque un petit peu de virtuosité technique, quoi. C'est vrai que moi, quand je vois Unai rentrer, je me dis, chouette, on va avoir un peu droit à ça. Bon, pour l'instant, c'est difficile, ouais. Un peu plus que d'habitude, d'ailleurs.
Quelques fulgurances, quand même. Hein. On voit que ce garçon a plus que du ballon dans les pieds.
Ah oui.
On l'a vu pendant la Coupe du Monde. On a vu son premier but avec l'Olympique de Marseille face au FC Nantes. Les gars, sur Marseille, rien à ajouter. On l'a dit. Tiens, je m'interrogeais, toi, Stéphane, qui a commenté la Première Ligue pendant quelques années. Tu as vu Alexis Sanchez en Première Ligue?
Ouais.
Ah, oui. Arsenal, à Manchester.
Un autre niveau que celui qu'il a là, quand même. Moi, je partage pas. Je comprends toute l'argumentation sur.
Je trouve ça excessif. Les propos de ce soir,
il met un doublé. Donc, il met un doublé. Mais oui, donc on se tait. Mais oui. Quand on se rappelle de ce qu'était Alexis Sanchez et ce qu'on voit ce qu'il est aujourd'hui, évidemment, c'est pas. Pour moi, c'est plus un joueur de très haut niveau. On l'a vu en Ligue des Champions. On l'a vu dans les matchs contre le PSG.
Il est moins bien entouré qu'à l'époque Arsenal ou Manchester.
Sans doute. Mais par contre, il est effectivement dans l'esprit ce qu'il amène. Parce que c'est un joueur aussi qui avait pas mal de soucis dans le vestiaire d'Arsenal, et là visiblement cette année il y en a pas, donc il est dans l'esprit à Marseille. C'est une bonne pioche, il y a rien à dire là-dessus, quoi. Mais c'est pas je voilà, oui, c'est le Alexis Sanchez d'Arsenal, c'était quand même autre chose que
ouais, mais ce qu'il est aujourd'hui. En fait quand évidemment. Je dis tout à l'heure l'anti-Messi, moi c'était surtout sur effectivement l'attitude et les courses. C'est-à-dire qu'à 34 ans,
tu peux très bien te dire mais Messi, Flo, ça a jamais été un joueur de course.
Non, mais
Alexis Sanchez, ça a toujours été ça.
Oui,
c'est
mais
un joueur qui avait une dépendance d'activité.
Je suis d'accord, mais quand par exemple ce qui s'est encore passé là, mais quand Messi, sans faire toutes les courses que fait Sanchez, s'arrête systématiquement quand il perd un ballon, là cette année il l'a beaucoup fait en championnat, en Ligue 1 notamment. Un peu moins parfois en Ligue des Champions, typiquement déjà ça.
Non,
jouer ce genre de match d'une façon.
Ils sont investis, il est avec les autres, non, il est dans l'esprit, il s'engueule avec les mecs.
Je ne peux pas dire que c'est le modèle d'un très grand joueur. Je trouve que c'est surtout un exemple pour, par exemple, des jeunes joueurs qui doivent le voir à la commanderie en match.
Non, puis surtout ceux qui l'ont vu évoluer à Manchester United où c'était un fantôme et à l'Inter où c'était très très compliqué, où il était. Il a eu quelques bons passages à l'Inter, mais assez rares quand même. Mmh. Là, il fait une saison pleine, complète. Il est jamais blessé. Il est présent. Il a de très bonnes stats. Voilà. Donc, très, 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 très bonne pioche.
On va faire un top 10 des pioches de la saison en Ligue 1. Je pense qu'on va rajouter Bemba.
Chancel Bemba, pour moi, la recrue de l'année, c'est Brice Samba.
On parle de deux joueurs arrivés libres également. Ouais. Chancel Bemba et Alexis Sanchez. Ouais. Hein.
Bemba était libre.
Ouais. Il était libre.
Ouais. Très bon joueur. Très bon joueur.
Très très bon joueur. Brice Samba également, bien sûr. T'es arrivé
libre?
Non. Il monte en Première Ligue. On lui dit qu'il ne sera pas numéro 1.
Ouais, j'ai un doute.
Je pense pas.
Petit transfert.
Allez, pour être précis sur Sanchez, il est en fin de contrat, juin prochain, mais il y a une année optionnelle. Il faudra se mettre d'accord, quoi. Il faudra que les deux parties soient d'accord pour prolonger.
Oui, c'est vrai qu'on aimerait le voir, Sanchez, associé avec un.
On ne le voit pas, Vitinha. Il n'existe pas.
Ouais, mais encore une fois, je pense vraiment que tu as besoin maintenant d'une phase 2. Ouais. C'est-à-dire que quand elle doit arriver. On pensait qu'elle allait arriver dans cette deuxième partie de saison. Je pense qu'il faut une phase 2 pour l'OM pour avoir un jeu quand même un petit peu plus développé.
Will Steele en conférence de presse.
Il nous a frappé de plein face. Je pense qu'on a, sur l'ensemble du match, on a été assez entreprenant, on a été assez intéressant dans le contenu. Et on a réussi à mettre en difficulté une très très belle équipe de Marseille jusqu'à la 94e minute, je pense que c'était. Donc je ne peux qu'être fier, je pense. Je ne peux qu'être fier parce que il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont jouer 19 matchs sans perdre. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont mettre en difficulté cette équipe de Marseille. Mais comme je le dis, c'est la réalité du football. On allait encore perdre des matchs. Et peut-être que je deviens un vrai entraîneur maintenant, après avoir perdu. Je pense que le premier but sera un coup de pied arrêté qui est très très bien frappé. Est-ce qu'il était plus proche que la faute subie? Ça, c'est une autre question. Mais le deuxième but est parfaitement évitable. Et ça vient d'une petite erreur de concentration ou de prise d'info. Parce qu'à part ça, j'ai pas vraiment senti notre équipe en grosse difficulté. Alors oui, c'est un match un peu atypique avec énormément d'intensité, beaucoup de duels et pas mal de moments de transition. Donc il y a peu de temps pour des attaques placées, des attaques posées et pour mettre le pied sur le ballon. Et au final, on n'a pas été capable on n'a pas été assez efficace sur notre dernier geste en deuxième mi-temps. Donc nous voilà face à la première défaite. Mais je me répète, c'est surtout un sentiment de fierté et de positivisme. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. On a écrit une très très belle histoire. Et à nous maintenant d'aller en écrire une autre. Parce qu'il reste 10 matchs et qu'on a envie d'aller se pousser jusqu'au bout.
Voilà, pour la première réponse de Will Steele, on va en rester là. Je rappelle qu'il a 30 ans, cet homme-là. Et il nous parle foot en conférence de presse.
Et
il nous parle jeu également.
Un peu d'Auguste Comte aussi. Parce qu'il parle du positivisme, ce qui est une sorte de...
Quelle référence.
Oui, mais justement, c'est employé à tort, à mon avis.
Oui, c'est employé
à tort.
Oui, t'as pas fait le débat maintenant.
C'est comme la finalité.
Ça court, le positivisme.
C'est comme les gens qui te disent... La finalité,
ils ont gagné. Ils ont gagné. Je regarde les stats du match là. Ils ont gagné. Excuse-moi de te rappeler.
C'est comme si un mec disait en conférence.
Faut pas être négationniste ce soir.
Ouais, ça va.
C'est un peu ça l'équivalent. Vas-y Stéphane. Tu disais?
Je regardais les stats du match. Vous voyez, duels gagnés, 66 Reims, 61 Marseille. Donc c'était 127 duels. C'est énorme. Et effectivement, donc ça confirme ce qu'il dit sur, enfin, ce qu'on a vu aussi évidemment sur l'intensité du match et sur le fait que Reims a répondu. Moi, je pense que Reims a presque tout bien fait, quoi. C'est juste, effectivement, ils prennent ce but qui est lourd de conséquences et j'aimerais bien savoir si lui incrimine plus Abdelhamid ou le gardien. Je sais pas.
J'ai l'impression que c'est Abdelhamid là, ouais.
Bah, pour moi,
pour toi, c'est Abdelhamid.
Bah, pour moi, en fait, quand il y a déjà un temps énorme pendant lequel Alexis Sanchez dit à son gardien qu'il veut le ballon, n'importe quel défenseur central déjà peut le voir. Ça veut pas dire qu'après il l'aura. Ouais. Il y a le dégagement du gardien où il est un petit peu mal placé, ouais, mal positionné.
T'as vu l'effet du dégagement du gardien?
Oui, oui.
C'est ça qui est formidable dans ce dégagement, c'est qu'il part droit.
C'est vrai que t'as raison de souligner le jeu au pied. Il pose le ballon par terre d'ailleurs, Paul Lopez. Ouais. Hein, c'est pas un ballon qui est dans les mains. C'est un ballon qui pose au pied comme font beaucoup les bons gardiens qui jouent bien au pied. Mais pour revenir sur cette petite histoire de Paul Lopez, puisque c'est Sampaoli qui voulait ce gardien-là, et par rapport à Mandanda dont on disait qu'il était moins fort. Mandanda, sous cette pression-là aussi, a énormément amélioré son jeu au pied, qui est plutôt un très bon jeu au pied maintenant.
C'est
en
pas
Ligue 1.
Le dimanche où on peut faire la comparaison, parce que Mandanda, il a été juste colossal avec Rennes contre le Paris Saint-Germain.
Mais c'est vrai que c'est assez marrant parce que je trouve que là, pour le coup, c'est le bon côté aussi de ce foot qui évolue. On veut des gardiens joueurs. Bon, ben maintenant, ça fait partie de la panoplie.
Ils sont pas décisifs. Un gardien cette année, c'est sa deuxième passe.
Ouais, c'est génial parce que là, ça. Mais effectivement, celle-là, en l'occurrence, elle était coupable, quoi. Enfin, coupable. On pouvait la couper, quoi. Que ce soit l'un ou l'autre des défenseurs centraux, mais c'est plutôt Abdelhamid qui était dans le coup. Je pense que c'est à lui qui faisait allusion, mais bon.
Le jeu appelle erreur, hein, évidemment. Ouais. Florian est avec nous, 32-16, supporter du Stade de Reims. Salut, Florian.
Salut, Nicolas.
Bienvenue dans l'After. Stéphane Guy est là, Flo Gautreau est là également. Bon, la série s'arrête, mais du coup, t'es pas catastrophé ce soir.
Hein. Non, absolument pas. Absolument pas. La série s'arrête. Peut-être le résultat est. C'est incroyable, c'est un moment qui est peu unique dans l'histoire contemporaine du Stade de Reims. Donc, non, absolument pas déçu, un peu frustré quand même. Un peu frustré dans la mesure où on regarde du nombre d'occasions qu'on s'est procurées. Il me semble que le match nul n'aurait pas été immérité.
Florian, est-ce que tu es avec un kit main libre là, ou alors au bord du périph'?
Tu peux
enlever ton kit main libre et mettre ton téléphone à l'oreille comme dans les années 90.
Oui, Nicolas.
Vas-y, c'est beaucoup mieux, je te laisse poursuivre.
Ouais, j'ai juste que, voilà, évidemment, absolument pas déçu, puisque le moment qu'on vient de vivre était unique, en tout cas dans l'histoire contemporaine du Stade de Reims. Après, plutôt frustré parce que, voilà, on regarde le nombre d'occasions qu'on s'est créées, il me semblait que le match nul n'aurait pas été mérité. Et frustré également parce que, voilà, on a vu une équipe qui a réussi à appliquer les préceptes de Will Steele, avec beaucoup de verticalité, beaucoup d'intensité, ce qui a peut-être manqué sa solidité défensive par rapport à d'habitude, mais, il en a sûrement manqué d'efficacité, j'entendais Will Steele à l'instant, d'efficacité offensive, et c'est ce qui fait frustrant. On a vu les préceptes habituels, en tout cas, de Will Steele, avec beaucoup d'intensité par séquence et beaucoup de verticalité, mais ce qui manquait, évidemment, il le faut, c'est de l'efficacité devant le but. Et avec Ballot qui claque son 17e but, mais qui loupe un peu, je vais pas dire la mancave, faut la mettre, elle est loin d'être évidente, mais à la fin, on aurait aimé l'avoir au fond, en tout cas. Mais,
je rappelle que Balogun, tu l'as dit, il a 22 ans, 17 buts en Ligue 1, je n'ai jamais vu depuis 52 ans en France, en Ligue 1, un ancien joueur qui a atteint qui a atteint déjà 16 buts, alors 17, peut-être ça remonte encore un peu plus loin.
Mbappé n'avait pas fait ça.
Non.
Non.
D'accord,
Non, j'ai un gros doute, mais non.
Il y a eu un gros.
Non, non, mais c'est terrible. Blanc, c'est je pense que non. C'est une première depuis 52 ans.
Est-ce que le silence le après Nicolas Jamin, c'est toujours du Nicolas Jamin?
C'est quoi le compositeur? C'était Beethoven?
Ouais, je pense Mozart. Beethoven.
Mozart, ouais. Mozart, Mozart.
J'espère,
merci pour la comparaison.
De la scorbe et l'élégance.
Mais... Ah oui. Tu as raison, exactement. J'étais élégant, j'aurais pu dire à Stéphane, absolument pas, je suis sûr de ma stat. On va vérifier ça, mais j'en suis quasiment sûr.
En fait, ouais,
Stéphane est très content de lui. Il vient de passer sa langue sur ses lèvres. Peut-être que je tiens un truc, là.
C'est vrai que je suis en train de chercher avec Mbappé.
Mbappé, est-ce que avant.
Ça paraissait logique. Oui, ça paraissait logique qu'il ait battu.
Peut-être mal lu la stat,
c'est
possible, les gars.
En tout cas,
17 buts.
J'ai vu que Balogun et toi qui t'intéresses évidemment trop foot anglais, t'es déçu de ne pas avoir été appelé en équipe d'Angleterre.
Balogun.
Non mais c'est ouais Balogun. Ça paraît crédible ou qu'il soit appelé, je veux dire enfin que.
Ouais, il aime bien Southgate appeler des très jeunes, mais après je pense que jouer à Reims c'est quand même pas c'est pas facile d'être appelé en équipe nationale.
Il y a du monde là, en l'occurrence ils ont du monde en plus offensivement c'est peut-être pas le moment.
J'ai un petit joueur en ce moment qui est pas mal, s'appelle Bukayo
Saka. Par exemple.
Je vous conseille de le regarder un peu jouer.
Bon Florian, merci d'avoir fait le 32-16. Bon maintenant 43 points le maintien, c'est même plus d'actualité pour vous. Qu'est-ce que tu espères sur la fin de saison là?
Tu rêves encore d'Europe, Florian, un soir comme ça tu te dis.
Pas si loin, hein.
On peut aller la chercher.
Si on l'a, on va évidemment pas cracher dessus.
T'as mais
moi, je suis plutôt partisan de dire que ça serait peut-être une évolution un peu trop précipitée, un peu trop radicale. On prendra volontiers la 6e place ou une 8e place. J'ai peur qu'on y laisse trop de force. Après, voilà, c'est l'expérience.
Mais Florian, entre nous. Il est très surcoté, ce Will Steele, non?
Après, voilà, à voir comment il va digérer cette première défaite. Mais j'utilisais cette notion, celle de précepte, et on voit qu'il a des principes de jeu très forts. Et je pense que c'est là que il peut être un bel avenir, parce qu'on voit qu'il a une vraie philosophie de jeu. Après, j'espère ne pas lui porter la guigne, mais c'est ce qu'il a apporté, ce qu'on voulait. En tout cas, ce que voulait le stade quand le stade a encore embauché Oscar Garcia il y a deux ans, c'était on avait les résultats avec Guyon, on voulait par contre un peu plus de jeu sur le terrain, on s'ennuyait un petit peu et malheureusement Oscar Garcia, il avait évidemment plein de circonstances atténuantes, il n'a pas réussi à atteindre cet objectif. Et oui, c'est vrai qu'avec le style, on se régale.
Le contenu est très bon. C'est ce qui s'est passé pendant plusieurs semaines avec Lens. Moi, j'étais pas inquiet parce que je voyais Lens ne pas gagner ou faire des nuls, mais et même parfois perdre, mais dans le contenu était bon. Là, ce soir, c'est une défaite, mais le contenu est bon. Donc tu peux te dire prochain match Nantes, ça, voilà, c'est.
Ah non,
c'est Nantes, Brest, Rennes, c'est Strasbourg et clairement, voilà le programme de Reims.
Ce que je regardais aussi.
Donc,
c'est intéressant parce qu'il faut toujours regarder le programme, savoir qui a joué Angers et qui n'a pas joué Angers.
Non, mais moi, je
et Reims n'a pas joué Angers. Donc ça veut dire que tu auras 3 points.
Non, mais je les mettrais dans une autre catégorie, tu vois, Nicolas, justement. C'est au-dessus de ça. C'est-à-dire que quand on parle de la défaite de soir en disant est-ce que style, ça peut le stopper dans son élan, je crois pas parce qu'il s'est passé autre chose que la simple arrivée d'un entraîneur. Je pense que les joueurs là sont dans un état d'esprit qui vont garder parce que c'est pas un état d'esprit très particulier, c'est une envie d'aller de l'avant systématiquement de se dépouiller mais pas seulement, donc ils savent à peu près tout ce qu'ils ont à faire. On voit que c'est vraiment rodé, c'est pour ça que j'étais d'ailleurs assez surpris de cette entre guillemets cette erreur avec Abdelhamid, parce qu'ils étaient sur des stats aussi de clean sheet assez impressionnants,
6 matchs consécutifs.
Donc ils ont quand même beaucoup de qualité. Tu prends pas de but, d'une part. Tu joues vraiment de l'avant. T'as quand même des bons attaquants. Enfin, t'as Balogun qui est quand même une révélation. Donc moi, je suis pas du tout inquiet pour Reims. Je pense qu'ils vont s'éclater sur la fin de saison, au contraire. Quelque part, ça va enlever un petit peu toute cette histoire de série et autres. Et non, ce soir, au contraire, effectivement, c'est une défaite qui les classe, comme l'a dit Steele dans sa conférence de presse, qui les classe à un bon niveau en Ligue 1 parce qu'ils ont été, ils ont regardé Marseille les yeux dans les yeux.
Tout à fait. Bon, il y a une petite remarque presque sûrement ironique tout à l'heure en conférence de presse qu'on a dit, ça y est, j'ai perdu, ça va peut-être faire de moi un entraîneur maintenant, un vrai entraîneur. Mm-hmm. J'ai senti
La phrase normalement c'est de dire
un peu sarcastique,
faut se faire virer surtout.
Oui.
On dit qu'on devient un entraîneur.
Il a déjà été viré, donc ça va, il a déjà connu ça.
Ouais.
Bon, voilà pour Reims, tu as raison, Steph, qui ira à Nantes après la trêve. Merci Florian, on aura fait le 32-16.
Nicolas, juste,
vas-y.
Juste, micro-parenthèse.
Vas-y.
Je tenais à vous dire que voilà, je vous écoute depuis que j'ai 16 ans, j'ai aujourd'hui 33 ans, je suis papa, il y a beaucoup de choses qui seraient, beaucoup d'eau qui...
Magnifique. T'as acheté le maillot de Reims ou quoi? T'as pas appelé ton fils ou ta fille Daniel, rassure-moi, j'espère.
Gilbert?
J'ai mal entendu, Nicolas.
T'as pas appelé ton fils ou ta fille Daniel, j'espère.
J'ai hésité.
Il y a eu débat?
Pour le, pour le deuxième, il y a eu débat, madame n'a pas voulu, mais bon, tant pis. Pour le deuxième, on espère. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire que je pense être voilà, un enfant de l'after et voilà, grandi. En tout cas,
bah, écoute, je sais pas si je demande à Jérôme Thomas en direct, est-ce qu'on a des maillots, encore un maillot à t'offrir? Je pense que oui. Maillot de l'after, c'est pour toi, évidemment. C'est un grand oui, Florian. On t'envoie le vrai maillot officiel de l'after.
Il n'y a rien de plus beau que le maillot de Reims, qui est le plus beau sponsor de la Ligue 1, j'ai déjà dit plusieurs fois.
Ah, ben, bah, un sponsor normand, non
c'est pas exactement, ça, c'est Maison pas... France Confort, ouais. Made in Alençon.
Oui, il y a une connexion.
Maison, c'est là.
Elles sont
là.
Normandie.
Bon, il y a aussi Malus sur le maillot, on me dit.
Ah, aussi.
Malus. Merci Florian, on a fait le 32-16. Très bonne soirée à toi. Encore 15 ans d'after hein, devant toi, j'en suis convaincu. Oui, je disais tout à l'heure, le prenez pas mal, supporter Angevin, quand je disais qu'il faut regarder quand même le calendrier d'Angers pour savoir si t'as 3 points assurés. Lens a joué donc Angers ce week-end. Mais sachez que Marseille, Nice, Lille, Rennes, Monaco vont jouer également le SCO. Quasiment 3 points assurés, sauf.
On a Rennes-Reims, on a Lens-Reims, Reims-Lille. Il y a des matchs en veste, ça va être sympa.
Allez, on finit sur ce match avec JF au 32-16, supporter marseillais. Salut JF. Es-tu là, mon cher JF? Enfin, moi j'ai JF sur mon écran. Je sais pas tenter Jean-François ou Jean-Ferdinand, peut-être, je sais pas. Bonsoir JF, es-tu là?
Je suis là, Nico, tu m'entends?
Ouais, très bien.
Eh ben parfait. Alors, et tu avais fait bonne pioche, c'était Jean-François.
Oui, pas pris beaucoup de risques. On t'écoute après la victoire. Marseillaise.
Bah, c'est bien sympa ce petit match. Alors j'ai pas écouté vos 3 points, je sais pas ce que vous avez dit, mais bah forcément moi gros plaisir. On vient, on gagne, on s'en va dans la succursale du Stade Vélodrome. Donc c'était très très plaisant. Donc non, je me suis régalé. J'ai emmené mes garçons. C'est la première fois qu'ils payent un match de l'OM en fait avec moi.
Et ben.
Et donc on s'est régalé. C'était sympa et le match est sympa parce que l'OM gagne. Et parce que Reims et joueurs, franchement, j'ai trouvé vraiment un beau match avec deux mi-temps vraiment différentes, mais une première mi-temps un peu maîtrisée, la deuxième mi-temps, avec ce côté un peu Coupe de France, tu sais, le chaos à tout moment, les centres qui n'arrêtent pas d'un côté, les contres de l'autre, franchement, un match vraiment ouvert, c'était cool. Et c'est pas la première fois que je vais à Dolone cette année, et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai des beaux matchs, donc c'est plutôt cool.
Très bien, une première pour un enfant à un stade. Voilà.
Il y a une petite précision statistique, cher Nicolas, j'ai regardé Mbappé, l'année de ses 22 ans, donc la saison 20-21, 27 buts marqués sur la saison. Alors je ne sais pas s'il était à 17.
Voilà.
Peut-être qu'il n'était pas, ouais. il était peut-être marqué tous ses buts en fin de saison.
Donc ta scène n'est pas complète. Tu la donneras quand tu auras la version définitive.
Non, ça, je peux pas. Ah,
voilà. Ça se voit, ça, on peut le trouver. Merci JF. Mais écoute, bonsoir à tes enfants, aussi à tes garçons.
Je leur transmets.
C'est une émotion quand même de voir Marseille pour la première fois quand papa est supporter marseillais.
C'était une belle ambiance. Alors eux, ils sont un peu mitigés, ils sont pas encore totalement marseillais, mais là, je pense que je les ai convertis ce soir. et Nico, je vais me faire avoiner par les garçons si je te le demande pas. En plus, j'ai entendu juste avant que t'arrosais des t-shirts de l'after. Ah,
c'est vrai que j'ai dit arroser, c'est le moment. J'aurais pas dû employer ce terme.
Également, je suis également un grand fan de l'after que j'écoute le matin en revanche. Je suis pas un after indifférent. Et c'est d'ailleurs ma première dans l'after ce soir. Donc,
bon, mais t'as mis tous les arguments pour avoir un maillot. écoute, c'est le deuxième et le dernier de la soirée qu'on envoie parce qu'on n'a pas un stock illimité non plus. Donc tu vas avoir JF, Jean-François, un maillot de l'after. Merci à toi.
Merci beaucoup, Nicolas.
Dans le 32-16, bonne soirée. Les gars, dans un instant, le PSG, bien sûr, Rennes également au programme. On vous attend, supporters parisiens, au 32-16. Tiens, je notais ça à l'instant. Tout le monde a gagné de Marseille à Lille ce soir, en passant par bien sûr Lens, Monaco, Rennes, Lille. On fera un point classement également fin de saison aussi. C'est important à 10 journées de la fin. 30 points encore à prendre. Est-ce que le PSG est en danger? Tiens, vous pouvez nous appeler également pour en parler au 32-16. Reste avec nous, c'est l'after et sur RMC 23h23 avec Stéphane Guy. Et Flo Gautron parlera de la victoire du Barça face au Real également en fin d'after. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamin.
L'after RMC 23h27 en compagnie toujours de Stéphane Guy et Flo Gautreau. Dans quelques résultats les gars après en fin d'after, notamment à l'étranger, intéressant. La Juve hein, en train de revenir furieusement sur le top 4 malgré ses 15 points de pénalité. Sur le programme notamment les drôles de dames demain soir à 20h dans Génération After. C'était mon teasing. Sachez également, tiens rapidement, avant d'évoquer le PSG, que Todibo a été appelé pour suppléer Fofana en équipe de France.
Et Disasi.
Et Disasi également pour remplacer William Saliba. Voilà. Jamais désespéré. Hein.
Todibo, c'est quand même mérité.
C'est mérité.
Enfin, en tout cas,
forme de logique à le voir arriver dans le groupe France.
Paris donc battu au Parc des Princes, les gars. C'était en fin de journée de ce dimanche. 2-0 par le Stade Rennais, dans une drôle d'ambiance. On va écouter tout à l'heure Christophe Galtier parler de son avenir aussi. Pas mal de sorties critiquées de l'entraîneur du PSG. D'en parler tout à l'heure, des trois points, hein, mon cher Flo, sa communication. Lui qui est un art dans le domaine, qui est en train d'être de plus en plus faillible. Qu'est-ce que vous retenez, les gars, de cet après-midi au Parc des Princes, spontanément, au-delà de la défaite du PSG?
Et moi, je pense que le Paris a réussi son après-midi.
Alors pourquoi?
Je pense que Nasser, ce soir, il se couche ravi. Il y avait Kim Kardashian au Parc des Princes, Nico. Mm-hmm. Tu te rends pas compte de la situation? Je sais pas qui c'est cette dame, mais visiblement, elle est extrêmement populaire et connue. Je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie, mais en tous les cas, c'est visiblement le... Moi, tous les supporters du PSG ont reçu cet après-midi un texto. Attention, soyez bien là pour l'ouverture, pour l'arrivée des équipes. Il y a un événement qui se prépare. Bon, donc ils ont eu. Alors, on s'est dit, qu'est-ce que c'est? Ils vont fêter un titre. Il y a pas les 10
le départ de Neymar,
gagner la Gambardella, ou Messi. Il va annoncer son départ. Non, c'était Kim Kardashian. Donc la journée est réussie pour le Paris Saint-Germain. Kim Kardashian était là. Il y a eu un jour Leonardo DiCaprio. Il y a eu. C'est ça le PSG aujourd'hui.
J'ai son ex mari également, Kanye West. Qui
sur les réseaux, j'imagine qu'elle a dû, inonder les réseaux de sa présence à Paris. Et la marque PSG n'en sort que ressortie. N'en sort que renforcée, pardon.
Que renforcée. Tu connaissais pas Kim Kardashian?
Elle a rien fait.
Elle n'a rien fait, à part une télé-réalité américaine.
C'est tout, d'accord.
Et puis de la mode, et voilà, quoi.
Je ne sais pas ce qu'elle fait. D'accord.
D'accord. Flo, tu.
Enfin, il y a pas mal de gens qui. On ne sait pas ce qu'ils font non plus.
Tu étais une bonne surprise l'après-midi, ça? Kim Kardashian qui apparaît sur notre bonne vieille Ligue 1.
Je suis un peu passé à côté. Non, enfin, je l'ai vu, évidemment. Mais non, mais après, pour cet après-midi, quand même, je trouve que c'est une après-midi très particulière parce que. Il y a eu plein de choses qui sont passées dans la saison, mais c'est la première fois que le PSG perd, que le PSG ne joue pas, n'a pas d'intensité et que les tribunes ne réagissent pas. Ce qui est quand même frappant dans ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui est le plus terrible, c'est que même du côté du CUP, alors on a eu un des supporters qui encourage leur équipe, ok, mais tu as le droit de te retourner.
Ils ont été
aussi.
Remerciés parce que, à la fin du match, ils sont tous allés spontanément, ouais. Évidemment, remercier leurs supporters.
T'as raison de souligner,
mais. Messi n'est pas rentré directement au vestiaire. Voilà. Non, lui, il est allé avec Kylian Mbappé.
C'est lui qui a pris tous les mecs dans les mains. Voilà, les gars, on y va quand même. Ils ont fait l'effort de venir.
Ils ont été super aujourd'hui. On va les remercier.
Mbappé y est allé, effectivement, pas Messi et pas Verratti, je crois, d'ailleurs, non plus. Mais, moi, je pense que là, c'est presque une journée.
Mais le match de Messi, c'est une mascarade.
Alors, le match, c'est une mascarade.
L'après-midi de Messi à Paris, c'est une mascarade.
Oui, mais justement, c'est pour ça que je voulais souligner la très paradoxale et curieuse des spectateurs. Et je ne parle pas des spectateurs, je vais même dire des supporters et du CUP, puisque le CUP est remarquable à bien des égards par rapport à tout ce qui a pu se passer dans le passé, dans les tribunes, cette gestion des tribunes.
Il est remarquable en quoi? Il est d'applaudir bêtement une équipe qui n'en sait rien.
Je vais y venir, justement. Je te dis, ils sont remarquables depuis des années sur le côté sécuritaire. Les tribunes ont été terribles et ils jouent ce jeu-là. Ils ont accepté de jouer ce jeu-là, très bien. Mais en revanche, effectivement, qu'à un moment donné, à la mi-temps de ce match, pendant la deuxième mi-temps, que tu n'es pas justement l'organisation pour te dire là les gars, il faut faire quelque chose, il faut dire quelque chose, il faut se lever, il faut s'élever. Ce qui se passe aujourd'hui en France, il y a des tas de choses, il y a des tas de gens qui ont des choses à dire, ils le font, ils manifestent. Il faut que les tribunes s'emparent aussi de cela, pacifiquement évidemment, pour dire un message définitif. Ça peut être à l'entraîneur, c'est la vie d'un club de foot, c'est la vie de Galtier, c'est son destin. C'est pas un entraîneur fait pour le Paris Saint-Germain. Il a raté son expérience, il a tenté ça, c'est normal de vouloir le faire quand t'es entraîneur. Je pense que voilà, il a montré ses limites. Ok, c'est les limites évidemment des dirigeants. Et là, les supporters aujourd'hui, il s'est rien passé. Donc,
on a vu des plans de coupe alors que Paris était 2-0 sur des supporters, des ultra parisiens qui continuaient d'applaudir.
Ouais, alors,
chanter également. Alors, on n'est pas en train d'appeler à l'insurrection
des
supporters parisiens.
On sait que les supporters sont
capables. Des images étonnantes.
Moi, je trouve qu'à l'inverse, parfois, dans d'autres clubs d'ailleurs, n'importe quel club, je trouve parfois que les banderoles un peu insultantes sont sorties très très rapidement et parfois de manière très violente, très agressive. Bon, mais pourquoi pas, après tout, les supporters ont le droit de manifester et de donner leur avis. Et là, dans un club emblématique où les joueurs, une partie, se foutent de la gueule du monde.
À Strasbourg, il y avait une banderole. Les supporters ont dit aujourd'hui, je ne sais plus comment ils ont formulé leur affaire, mais victoire obligatoire.
C'est fréquent. Et quand tu te moques comme ça, tu l'as parlé de Messi, mais il n'y a pas que Messi. Après, quand tu arrives contre Rennes aujourd'hui et que tu n'as pas l'intensité, tu n'as pas les duels. Putain, on a regardé Reims-Marseille et tu regardes ce match-là, le match du PSG cet après-midi, c'est hallucinant. Donc, ça continue. Après l'élimination en Coupe d'Europe, après, c'est combien? 7 défaites en 2023. 7 défaites en 2023. Donc, Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est pour ça que j'ai parlé de Père Lachaise, puisqu'on n'arrête pas de dire, tiens, il faut quoi comme nouveau stade, le Stade de France, l'hippodrome de Saint-Cloud et tout. Je dis, bah, Père Lachaise.
Tu proposes Père Lachaise.
Je propose de Père Lachaise comme nouveau stade. Parce que là, ce qui s'est passé cet après-midi, c'est horrible. Le PSG a une histoire avec ses supporters. Il y a un lien très fort. Il y a tout ce qu'il faut pour au moins avoir, on va dire, une résistance active qui montre le chemin oui. qu'il faut emprunter. Et là, il se passe plus rien. Je pense que c'est le pire dans tout ce qui pouvait arriver au PSG. Perdre, être éliminé en Ligue des Champions, c'est la vie d'une équipe qui, voilà, qui va, qui vient.
Éliminé en Coupe de France, éliminé en Ligue des Champions.
Mais si les supporters, cette maintenant, lâchent l'affaire, et si les joueurs, en gros, baissent
Kim
la tête.
Kim Kardashian était là. Kim Kardashian en personne était là.
Franchement, cet après-midi, j'ai eu de la peine pour le Paris Saint-Germain. Parce que, et je le dis comme tout à l'heure, Rennes a gagné. Mais Rennes n'a pas fait un match incroyable pour réussir à gagner et à battre ce PSG.
Rennes a déjà battu souvent le Paris Saint-Germain.
Juste Mandanda a fait un gros match.
C'est vrai.
Voilà. Je résume un peu à ça. Et puis, un bon match du reste de l'effectif. Tiens, on va écouter Christophe Galtier, justement, les gars, qui est en conférence de presse.
Il y a beaucoup de
questions. On l'écoute. Je te rends la parole après. Farid sera avec nous également, supporter du PSG au 32-16. On va l'accueillir. Christophe Galtier, lui, voit des joueurs investis malgré la défaite.
Les joueurs ont tout donné. Ils ont donné ce qu'ils avaient dans les jambes et sur un plan athlétique par rapport au match. Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match et qui voient 8 joueurs absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu'ils ont dû voir une ou deux fois à l'entraînement. On savait qu'on allait avoir un match difficile. Les organismes sont quand même très fatigués. Sur l'entame de match, il y a eu quelques erreurs techniques. Malgré cela, nous nous sommes créés de belles situations en première période. Est-ce que c'est suffisant? C'est à vous de juger, mais Steve Mandanda a fait des arrêts. On ne peut pas incriminer mes joueurs sur le fait qu'ils n'étaient pas investis. Ce n'est pas vrai. On peut comprendre qu'à un certain moment, quand vous êtes mené 2-0 face à Rennes et que vous savez que vous n'avez pas beaucoup d'autres options et qu'il manque beaucoup de joueurs, qu'il peut y avoir un peu de résignation.
Bon, cette déclaration un peu étonnante, c'est quand il dit qu'il faut se mettre à la place des joueurs qui découvrent dans le vestiaire, des jeunes joueurs. C'est-à-dire qu'il met, sur le grill.
C'est une déclaration scandaleuse.
Les jeunes joueurs du PSG.
J'ai pas entendu la totalité. Sur les jeux, moi je suis parti.
Je trouve que
c'est incroyable.
Match après match, les jeunes.
Ça devient un peu.
Poser une critique sur les anciens, entre guillemets, ou les cadres du PSG.
L'un des
éléments de communication du Paris Saint-Germain ces dernières années, c'était précisément de dire notre académie est très performante, on a les meilleures équipes de jeunes, on a des pépites, etc. Bon, ben, voyons-les, les pépites. Les pépites, s'il y en a, voyons-les.
D'ailleurs.
Gavi, il était titulaire avec le Barça ce soir, il a 18 ans.
Et d'ailleurs, Zaïre Emery fait partie.
Et les autres l'ont parlé dans le vestiaire en se demandant qui c'était.
Et d'ailleurs, Zaïre Emery fait partie des joueurs qui ont relevé le défi avec courage et talent depuis qu'il a été appelé. Moi, cette déclaration.
Le milieu de terrain du PSG, c'est Verratti, Ruiz, Vitinha. C'est-à-dire, c'est pas des mômes, c'est des joueurs qui étaient normalement appelés à être titulaires. Donc, là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Il y avait un problème en défense centrale.
Est-ce que c'est un gamin? Il a 17 ans, voilà.
Est-ce que ça t'empêche de proposer quelque chose, de prendre des initiatives, d'être proactif? Pas du tout. Et même Mbappé, je trouve, sur ses dernières prestations, même il réussit plus de dribble, il réussit plus de 1 contre 1. Enfin, je veux dire, il est en train lui-même quelque part de se dessécher dans cet univers-là.
Effectivement, le match d'aujourd'hui est assez emblématique et la décla de Galtier, là où elle est catastrophique, c'est pour ça que j'ai dit qu'il peut pas continuer. Parce que ça, c'est la décla de quelqu'un qui n'a plus de solution. Il accepte, il dit dans la même déclaration, effectivement, que c'est la faute, enfin, que les jeunes joueurs sont un peu la cause de tout cela. Donc, il avait déjà fait, on se rappelle, démenti par Verratti, au final, puisque Verratti avait dit que c'était bien sa faute et que c'était pas celle de Bichabou. C'est vrai que Bichabou a fait un début de match.
Il y a eu déjà le match à Monaco, il avait pointé du doigt aussi les jeunes. Après, il y a eu le match de Bichabou face au Bayern.
C'est la troisième fois. La troisième fois, t'as raison de le souligner, mais il y a aussi dans cette
Il y avait Kim Kardashian quand même cet après-midi au Parc des Princes quand même. Donc là, quand même, on avait atteint un certain level.
Dans ce qu'il a souligné.
C'est ça qu'on dit, non, sur les réseaux, un level.
Dans ce qu'il a souligné.
Tout à fait. Mais c'est même dépassé comme expression.
Ah bon.
Vas-y.
On dit les termes en fait.
Ouais, les termes.
Et dans les termes qu'il a employés, là, Galtier, ce que je trouve catastrophique, c'est il a accepté et compris la résignation de ses joueurs. Et quand tu parles de Mbappé, effectivement, moi, j'ai vu un Mbappé assez résigné aujourd'hui. Il dit à un moment donné dans sa décla là que quand t'es mené 2-0 face à Rennes et qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Donc là, il pointe encore.
J'ai
du
vu.
Doigt,
j'ai pas parlé de la résignation. Vous voyez Luis Campos et Daniel Radaifi en grande de discussions, en train d'échanger, de se projeter sur la saison prochaine pour voir un peu ce qui allait se passer. Non, je blague parce que chaque plan des deux, ils ont un regard, effectivement.
Voilà, ils sont effondrés là.
Ils ont le regard du Père Lachaise, en personne. Et puis ils ne sentent jamais.
Parce que ne regardez pas Lachaise.
Jamais une complicité, rien. C'est impressionnant. C'est d'une froideur. Ça rappelle ce plan extraordinaire à la Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous rappelez cette image. Enfin, la Coupe du Monde de la honte, dans les tribunes au Qatar, où on avait donc Nasser El Khelaifi assis en tribune à côté du père de Kylian Mbappé, et le bon vieux Luis Campos qui, lui, était relégué au siège en dessous. Ça veut dire que, pour Nasser, c'est plus important d'être assis à côté du père de Kylian Mbappé que d'être assis à côté de son directeur sportif.
Allez, Jacques Effin, le 32-16.
La vie footballistique à Paris.
Supporter du PSG, salut Farid.
Oh, salut messieurs.
On va t'accueillir dans l'after avec Stéphane et Flo.
Je vais me faire l'avocat, là, parce que Stéphane, il est gentil, mais bon, ça fait des mois maintenant que t'arrêtes pas avec le Qatar et puis tout ce qui va derrière et Nasser et tout ce que tu veux. Bon, je peux comprendre que tu sois proche peut-être d'un Galtier, je sais pas si t'es copain, mais soyons très pragmatiques. Aujourd'hui, c'est l'entraîneur du PSG, c'est le pire entraîneur qu'on ait eu depuis l'ère Qatari. J'ai hâte que l'Arabie Saoudite arrive à Marseille, comme ça t'arrêteras un petit peu le côté PSG, Qatar, Nasser. Kim Kardashian, on s'en moque tous, tu vois, de ce qui se passe.
T'es pas content, il y avait Kim Kardashian au Parc des Princes.
Oui, mais moi je suis pas content.
T'as reçu un petit texto pour te prévenir, j'espère, à midi.
Parle-moi football.
Pour égayer, ton gigot fait de dimanche.
Les supporters parisiens sont pas dupes, effectivement, ils ont pas apprécié
l'annonce. C'est quand même lui qui est sur le banc. C'est lui qui prend un bon salaire. C'est lui qui fait des choix. Parce que, effectivement.
C'est le 7e ou 8e coach à qui vous allez les
clubs. Laisse-le parler, Farid, s'il te plaît, Stéphane.
Mais lui, c'est la plus grande pipe des 11 dernières années. C'est quand même le premier à avoir perdu aussi à Marseille. Et je te dis, je vais même au-delà de ses capacités, j'ai même des doutes sur son intégrité, de ce qui s'est passé sur le match de Coupe de France. Tu vois jusqu'où je vais. Parce qu'en étant bien, il est quand même marseillais, supporter de l'OM, toute sa famille est supporter de l'OM.
Mais c'était pas dans son intérêt, Farid, quand même, de perdre à Marseille.
Non. C'est un match de Coupe de France. Il a fait des changements. Si t'as pas envie de le gagner, le match, tu fais exactement ces changements. Donc on revient au match, et on revient. C'est pas d'aujourd'hui qu'on est mauvais. Ça fait depuis un petit moment. De toute manière, les passes droits, il les laisse aussi bien à Neymar quand il n'était pas blessé, à Messi qui n'avance pas, et aux autres. Donc, on est bien d'accord. Aujourd'hui, quand vous entendez sa déclaration, plutôt de nous endormir, Stéphane, avec ce qui se passe dans les tribunes, je voudrais que tu réagisses sur la déclaration qu'il fait d'après-match où il incrimine...
Je viens de réagir, camarade, t'as pas écouté ?
Ben si, camarade.
Je viens de le dire. Si, je viens de le dire à l'instant qu'effectivement c'était déplacé. Ces propos sont déplacés.
Mais tu en parles deux secondes et tu rebondis sur Nasser qui effectivement est responsable d'avoir pris.
Mais protège-le, Nasser. Moi,
je le protège pas. Il est responsable d'avoir.
Ah, il est formidable, Nasser. Il a invité Kim Kardashian. C'est formidable.
Le coach. La semaine dernière, c'est toujours pas lui. Cette semaine, c'est toujours. Il est responsable de quoi, le coach ? Je veux savoir avec toi, il est responsable de quoi ? Qu'est-ce qu'il nous propose en termes de jeu ? Quand t'entends le contenu, c'est pas...
Ah ouais, mais moi je suis...
Avec toi,
je suis complètement... Je veux bien qu'on parle du contenu du match, mais ça me paraît tellement secondaire dans ce qui est aujourd'hui le Paris Saint-Germain, le contenu des matchs.
Mais vous êtes là pour analyser un match, quand même.
On est là pour analyser le football circus.
Politique. C'est toujours la même chose. Le Qatar ceci, le Qatar cela. Mais quand il y a la Russie, quand il y a les autres pays, je t'en entends jamais parler.
Je ne défends pas
le Qatar. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais il y a un moment, on parle football.
Tu peux. Bah oui, mais on parle. À Paris, est-ce qu'on parle football en premier ? Est-ce que c'est
revenons sur le jeu, les gars. Le match de cet après-midi, la défaite.
Je ne crois pas. Mais sur le jeu, il n'y a pas de jeu.
L'objectif premier du PSG, c'est pas de jouer au football, c'est de faire venir Kim Kardashian. C'est très différent.
Oui, d'accord. Ok, on a compris. T'as pas autre chose, sinon c'est.
Vas-y, Farid. Sur le jeu. Revenons sur le jeu, s'il te plaît, Farid.
Bah oui, c'est simple. Galtier, à mon avis, doit faire des tartiflettes avec Stéphane au ski. Et puis c'est un très bon coach. Et puis c'est la faute des jeunes. Voilà le résumé. On n'a pas affaire à un coach, on a affaire à un consultant. Il fait un constat, mais il ne réagit en rien. Il ne trouve le match du Bayern, il a rien fait. On a subi. Il a rien changé du tout. Il ne tente rien. Je pensais qu'avec Pochettino, on avait touché le fond. Mais effectivement, il y en a encore un peu. Parce que là, on va encore plus loin. Parce qu'effectivement, on touche pas la Coupe de France. On sort en huitième. À la rigueur, Pochettino, il nous a fait un demi-finale. Bon, je pensais que c'était le pire. Mais au niveau du jeu, j'ai regardé le match.
Je suis sûr qu'il y a un an, Farid, je me rappelle pas. Moi, je suis pas d'assez près, mais je pense qu'il y a un an, tu diras exactement la même chose de Pochettino. Et tu diras dans un an la même chose du prochain, comme tu disais il y a deux ans, la même chose de Tuchel, il y a quatre ans, la même chose de Henry, il y a cinq ans, la même chose de Laurent Blanc. On disait pique-pente de Laurent Blanc. Moi, j'ai jamais vu une équipe de Laurent Blanc livrer des matchs aussi piteux que ceux qu'on voit cette année.
Ah bon, parce que tu trouves que l'ère Laurent Blanc, on était piteux au niveau du jeu?
Non, justement, c'est le contraire. Je te dis qu'à l'époque de Laurent Blanc, le PSG, il y avait du jeu à l'époque.
Autant pour moi. Alors, moi, je vais te dire une chose.
Mais il était taillé tout pareil, Laurent Blanc. Il est parti, depuis, avec sur un rail, avec du goudron et des plumes, hein. Comme les autres.
Je vais te dire, si tu prends même l'équipe de Laurent Blanc aujourd'hui, contre l'équipe d'aujourd'hui, il n'y a pas photo. On s'est affaibli. C'est certes, on s'est affaibli. Maintenant, je pense qu'il est quand même responsable. C'est quand même lui qui peut sortir des joueurs. Tu as des joueurs qui ont envie de marcher. Il a le droit de les sortir. J'en suis convaincu. De toute manière, tu vas dégager. Donc, à un moment donné, prends position, fais des choses. Et tout le parc attend ça.
Hein. Oui, justement.
Je partage la parole, Farid, un flow.
Non, justement, pour répondre aussi un peu à Stéphane. Bien sûr, tu as raison sur les coachs qui succèdent. Je suis d'accord. Moi, le premier à dire que c'est les dirigeants qui sont responsables de tout ce qui se passe au PSG.
Laisse
finir Flo d'abord, Stéphane.
Vas-y, tu peux lui demander.
J'aimerais bien savoir. Tu veux qui comme coach, Farid?
Ah ben moi, effectivement, je préfère un coach de renom. Je pense pour investir comme ça déjà de toute manière.
Juste parce qu'après Flo va reprendre. Dis-nous le nom. Quel est l'entraîneur que tu souhaites qui prenne le Paris Saint-Germain.
En tout cas, c'est facile de trouver mieux que Galtier, ça c'est sûr. Alors je vais t'en donner un. Je pense que t'as des moyens, mais effectivement difficile de sortir. Tu prends un Guardiola. À la rigueur, tu sais quoi? Tiens, Stéphane, je vais t'en donner un. Comté. T'as vu sa déclaration d'après match?
Ouais. Tu veux Comté? D'accord. Ok. Ben on verra. Ok. Prenons Comté.
Un coach qu'on a. T'as vu ce qu'il a sorti?
Moi je veux surtout que Conte, ça fait 2 ans qu'il est à Tottenham, qu'il leur a fait dépenser des sommes complètement dingues et qu'il
annonce un éventuel retour à l'Inter en plus.
Je rends la parole à Flo.
Pour rebondir sur le choix du coach, je pense qu'effectivement si tu pars sur Conte, tu repars sur une autre aventure un peu identique aux précédentes. Après, si tu tapes dans une autre catégorie qui est peut-être intouchable aujourd'hui, qui est Guardiola, Klopp, Ancelotti, là t'es dans autre chose pour gérer le vestiaire du Paris Saint-Germain. Mais je pense qu'effectivement le problème c'est pas tout de suite le coach. Enfin, le nouveau coach, c'est les dirigeants. Mais quand même, je reviens à Galtier. Pourquoi je dis qu'il doit partir? Parce que là, je pense que lui n'a pas les épaules pour tenir ce qui reste encore de ce vestiaire. C'est pour ça, je dis pas qu'il est le seul responsable de la situation. Je dis que là, lui-même, de par ses déclarations, je pense que les fils, comme Tourelle à un moment donné, moi j'adore Tourelle, mais Tourelle lui-même, que je voyais assez régulièrement pour d'autres raisons, en dehors du parc, parce qu'il se trouve que son gamin était dans une école tout près de la mienne, on discutait, Tourelle, il a pété les plombs à un moment donné, il est devenu dingo, il faisait des compos qui n'étaient plus les siennes. Donc, en gros, ce club rend fou. Galtier, il a en plus de ça, ou en moins, par rapport à Tourelle et Emery, je pense quand même encore un manque d'expérience du plus haut niveau et pour la gestion de ce vestiaire. C'est pour ça que je dis que, sans préjuger de ce qui se passera derrière, je ne pense pas qu'il puisse rester. Donc je dis autant qu'il s'arrête, parce que là, la communication actuelle sur la résignation, sur s'en prendre au gamin, sur le reste, ça ne peut pas durer. Les joueurs se foutent de sa gueule.
Qui parle dans le club? Qui a parlé depuis l'élimination du Bayern? Quel dirigeant, outre Galtier qui a envoyé au feu? Moi, je suis pas là pour défendre Galtier. Moi, je pense que Galtier.
Nasser a parlé après la victoire à Marseille.
Galtier voilà. Ou un autre, pardon?
Non, il cote sa Galtier.
Avant l'élimination Bayern.
Nasser,
quand ça gagne, il revient. Oui, sinon, il sert à rien. Nasser a rien.
Bon. Je remercie Farid d'avoir fait le 32-16. Merci à toi, Farid. Tu reviens quand tu veux dans l'after. Excellente soirée.
Bonne soirée.
À très vite. Tu fais le 32-16. On prolongera les débats, bien sûr, la semaine prochaine, sur le PSG. On reviendra sur cette défaite face à Rennes, l'avenir également de Christophe Galtier.
Quand il n'y aura pas une remise en cause fondamentale du projet, quand il n'y aura pas une remise en cause fondamentale des hommes qui portent ce projet, vous pouvez mettre tous les coachs que vous voulez là-dedans, tous les joueurs que vous voulez là-dedans, ça finira de la même façon.
Je rappelle que la remise en cause, certains l'ont cru en début de saison. On tenait moins de bling-bling, plus de simplicité également.
Tu as raison. Stéphane, la semaine dernière, effectivement, c'est ce que j'ai dit à Daniel qui tenait le discours du coach. Je lui ai dit, tant que tu changes pas la stratégie, c'est-à-dire que si tu mets pas le sportif en premier avant le business, tu arriveras pas. Néanmoins, je me demande quand même si là, Galtier n'a pas le droit lui-même de dire, ça ne se fait pas, je sais, mais certains coachs le font, de dire, j'arrête.
Oui.
Parce que je pense qu'il n'a plus, Flo,
c'est ça.
Quel coach est parti comme ça en s'asseyant sur. C'était pas Villas-Boas qui avait dit.
À Marseille,
c'est pas la même chose.
Ouais.
Mais je dis juste qu'à un moment donné, on a le droit aussi de se dire stop, j'ai pas les épaules, j'arrête.
Et c'est pas ce qu'a dit Villas-Boas, c'est un énorme
déchet. Je parle pour Galtier.
Je pense que Galtier pense pas être l'unique responsable, le grand responsable de l'échec parisien cette saison. Non, je pense pas. On parlait du mercato, on en parle aussi ici, du mercato parisien raté sur l'été dernier ou cet hiver également, de la politique générale du club.
Sauf que,
n'étant
pas protégé par les dirigeants,
on t'explique en ce moment qui veulent, le Qatar veut à tout prix prolonger Messi. Quelle logique sportive ça, et financière, parce que l'un des problèmes de Paris, c'est de mettre 300 millions par tête d'affiche, c'est-à-dire ils mettent Messi, Neymar et Mbappé, donc après effectivement, bon, ça les empêche pas de mettre 600 000 euros par mois sur Ekitike, mais bon, bah, tout ça c'est...
Bon, on en reparlera dans le détail. Voilà pour le PSG, tiens, j'accueille François, supporter rennais au 32-16, rapidement. François, bonsoir.
Bonsoir.
Heureux de t'accueillir. T'étais au stade, au Parc des Princes. Raconte-nous comment t'as vécu l'expérience.
Ouais, carrément. C'est la première fois que j'allais au parc avec mon frère. Bon, c'était sympa, mais c'est vrai que l'ambiance, c'était vraiment pas terrible du tout. Je préfère le Razon Park. Hein. Parce que là, c'était, à part le cup qui était pas mal, mais autrement, c'était plus, c'était comme si c'était un spectacle, quoi, un peu.
Mais t'as vu Kim Kardashian, j'espère, quand
même. C'était fan qui est obsessionnel.
Non, on était juste au-dessus, on voyait pas trop, donc, non, ça m'intéresse.
Bon, et par là, ton équipe, quand même, t'as pris du plaisir, quand même, au Parc des Princes.
Franchement, le match était vraiment très faible, je trouvais. Ouais. Vraiment, le niveau était très faible des deux côtés. Je sais pas si il y a un de vous deux qui a dit ça tout à l'heure. C'est vrai que c'était vraiment affligeant. Le match était... Même au Rodan Park, on a vraiment vibré des fois sur des beaux matchs. Mais là, c'était vraiment...
En ce moment, moins, cela dit. Il faut le dire aussi. Hein, parce que Rennes n'est pas dans la meilleure séquence de sa vie. Mais ce qu'il faut souligner quand même, c'est le coup, enfin le choix tactique de Genesio. Parce que il n'avait pas réutilisé cette défense à 5, je crois, depuis la fin janvier à Lorient. Et moi, j'appelais de mes voeux le retour de Gauthier-Chukwu parce que il avait fait un très bon match contre le PSG à l'aller. C'est un jeune qui a un peu mal digéré d'ailleurs ce premier match peut-être, donc il l'avait ressorti. Il a 18 ans, mais ouais. Et surtout il a fait ce choix-là avec un Bourigeaud qui est moins haut mais qui est plus quarterback et qui a donc lancé sur le fameux but de Toko Ekambi. Donc il a tenté un truc qui a marché.
Il a joué haut, il a joué très haut, ouais. ce qui est quand même gonflé quand t'as Mbappé en face de toi, positionner ton équipe aussi haut en Ligue 1. Bravo.
Donc il a tenté un truc qui était par rapport à tous les suiveurs rennais pas forcément accueilli très favorablement, bon, tu sais, avant le match, quand on voit la compo. Donc ouais, tout le monde se demandait. On a beaucoup parlé du côté de Rennes, j'en ai beaucoup parlé, et je m'étais dit, moi, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, c'est marrant, c'est intéressant. Face à ce PSG-là, notamment, parce qu'évidemment, tu peux espérer que ce PSG-là soit pas assez intense, on va dire, pour gêner.
Personne pressait, il n'y avait rien.
Il n'y avait pas de pressing, effectivement.
Ils ont gagné deux matchs contre Paris, c'est très rare.
Exactement,
hein,
en deux mois.
Que trois fois, depuis que QSI est là, c'est arrivé que trois fois qu'une équipe batte le PSG.
Et sans encaisser
deux fois dans la saison.
Sixième victoire de Genesio contre le PSG, en 12 matchs. C'est jamais arrivé.
La bête noire, on sait qu'on. C'est pour ça que je suis allé là-bas aussi.
D'accord. Bon, Rennes, mon cher François.
C'est notre jardin, on est bien là-bas.
C'est vrai. Cinquième de Ligue 1, 50 points.
Vous avez pu venir avec Salma Hayek quand même, a manqué.
4 points. Tu sais qu'elle est venue, on a fait une légende. Elle est venue qu'une fois,
on ne parle pas.
Elle est venue le jour, on en parle encore aujourd'hui. C'est dingue, hein.
Dans 5 ans,
tu parles encore,
elle est venue.
Elle
est venue au parc.
Là-bas.
Ah oui. Elle était au parc le jour où il gagne à 9 contre 11 contre la direction de l'excellent Frédéric Antonetti.
C'est ça, c'est parc. En gardien.
Merci François. Bonne soirée à toi, à ton pote également à côté. Il a beaucoup ri ton intervention. À très vite dans un instant, la suite de l'after, bien sûr. Le Barça Real, la victoire du Barça, Fred Hermel arrive, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamain.
Avec Stéphane Guy, avec Flo Gautreau, RMC 23h51, et j'accueille Fred Hermel. Bonsoir Fredo.
Abemus papam.
Fred, il n'y a plus de suspense en Liga. Voilà, c'est terminé.
Il n'y en avait pas beaucoup, mais là.
1-0, il y en avait un peu plus.
1-0, même à 2-1. Enfin, même quand Asensio, à la 81e, marque le but qui pouvait être la victoire, mais enfin, qui est annulé par le VAR quelques minutes, parce qu'il a pris du temps après, il y avait plus 6 pour le Barça. Et puis, 10 minutes plus tard, il y a plus 12 pour le Barça. Il reste 12 journées. Donc, le Barça est champion, ça ne fait aucun doute. Et d'ailleurs, il y avait une déclaration très intéressante de Thibaut Courtois qui disait, de toute façon, match nul ou défaite, on savait que c'était fini. Il fallait gagner au Camp Nou pour pouvoir espérer faire quelque chose dans cette Liga. Ça pose beaucoup de questions. Bien sûr, on y reviendra amplement demain dans le spécial Drôle de Dame à partir de 20h. Mais ce Barça-là va être champion, c'est évident. Ce Real-là commence à inquiéter quand même sur l'état physique de certains joueurs, à commencer par celui que le journal AS, à qui le journal AS a mis un 0 sur 10 ce soir, Karim Benzema.
0 sur 10. Comment ça arrive, ça?
Ça arrive. Les Espagnols, ils sont excessifs, mais c'est vrai que...
Non, mais 0, c'est-à-dire que c'est un match inexistant, c'est-à-dire qu'il a été plus que nul. C'est
oui,
plus mauvais,
c'est
0. Que mauvais. Enfin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi?
Moi, j'ai pas aimé. Enfin, moi, je trouve que Karim, il est à des années-lumière de ce qu'il a été la saison dernière. C'est-à-dire que physiquement, il n'est pas là. Enfin, il a cette petite seconde de retard. Et même dans ses choix, moi, ce qui me surprend et qui m'inquiète le plus, c'est de le voir ne pas prendre des bonnes décisions, alors que lui, c'est un type qui lit tellement bien le football. Donc, on va retenir ce soir un petit pont dans la surface adverse. C'est tout ce qu'on va retenir, mais c'est, voilà. Puis Vinicius a pas été très bon, donc.
Vinicius, il a fait du Vinicius il y a quelques temps. C'est-à-dire qu'on pensait qu'il avait pas cété cette petite.
Il n'y a pas que Vinicius qui est con, Vinicius.
Voilà, en fait, il court, il fait des appels exceptionnels.
Après, il y avait parce que on l'évoquait hier soir dans l'after, c'est-à-dire que c'est pas normalement c'est Koundé latéral droit, mais quand il y a Vinicius en face, c'est Araujo qui devient latéral droit. Et c'est vrai que Araujo sur Vinicius a marqué un but contre son camp dès la 9e minute, mais on sent qu'après Vinicius il a pas été mal dans les dribbles, etc. Mais c'est vrai qu'on a retrouvé de Vinicius pas terrible dans la finition. Donc il y a plein de questions qui se posent, l'avenir d'Ancelotti, la numéro 9 pour la saison prochaine, et puis le Barça de Xavi qui est en train de fonctionner, hein, parce que ils ont gagné la Supercoupe d'Espagne, le premier titre de Xavi. Ils vont gagner la Liga. Avantage énorme pour le Barça en Coupe du Roi, puisqu'il y a une demi-finale qui a joué à l'année. Le Barça s'est imposé 1-0 à Bernabéu. Et puis on se dit que si Ancelotti ne gagne pas au moins un titre, et ben il y aura plus d'Ancelotti la saison prochaine au Real.
Un mot, Fred, par rapport au Real, sur Camavinga quand même, parce que il est en train clairement de prendre la place de Tchouaméni au milieu. Je suis intervenu là-dessus par rapport à Deschamps, parce que bon, il a arrière gauche qui me trouble d'avoir Pavard arrière droit et Camavinga arrière gauche. Mais bon, mais revenons sur le Real, il est clairement en train de s'installer comme le Tolly à ce poste-là.
Moi, je me pose encore des questions parce que je trouve que défensivement, enfin, que son poste, c'est le poste de Kroos. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus utile quand il faut se projeter vers l'avant. D'ailleurs, ce soir, ce qu'on voit surtout, c'est ses projections vers l'avant. Moi, je trouve que c'est pas le remplaçant de Casemiro. Et que le Real a besoin d'un vrai.
C'est un relayeur aussi.
Bah ouais. Il a besoin d'un vrai milieu défensif. Et je trouve que Tchouaméni est meilleur défenseur hein, dans ce rôle-là que Camavinga. Après, c'est pas moi qui décide. Hein. Moi, j'ai toujours peur que Camavinga, par moment, il est un petit peu trop dans la dentelle et il perd des ballons. Et ce soir, il a encore perdu un ballon compliqué. Mais c'est vrai que on voit ce qu'il a apporté offensivement. C'est vrai que c'est un joueur qui a de la propos puis qui a du culot en fait. Hein. Donc c'est vrai que quand il se projette vers l'avant,
faut le souligner juste. Par rapport à son âge, son intégration, je l'entendais répondre en espagnol aux interviews.
C'est
quand même un
génial.
Il n'a pas 20 ans. Rappelons qu'il n'a pas 20 ans.
Génial, exceptionnel.
Jules Koundé a été solide ce soir, hein, mon cher.
Solide comme défenseur central. Bobé, Koundé, et puis Christiansen, et puis Araujo qui, bon, il a eu ce but malencontreux contre son camp, mais après il a mis quelques minutes à s'en remettre, mais il s'est repris. Non, la défense du Barça, vous savez, la défense du Barça, ils avaient eu 9 buts. Il reste plus que 12 journées, ils ont pris 9 buts. Ils en étaient à 8, ils en ont pris un 3.
9 buts en 26 journées, c'est ça?
12, ouais, en 26 journées.
Incroyable. Un but occasionné tous les 3 matchs.
Voilà. Alors après, Xavi, il a bâti la maison, il rebâtit la maison avec les fondations. Donc, et ça, c'est que tout le monde imaginait, et moi le premier, que ça allait être le football brillant, d'attaque, etc. Mais Xavi a bien compris que l'obligatoire pour l'instant, c'est de ne pas prendre. De gagner des titres, et puis le beau jeu, il viendra petit à petit.
Bon, et demain soir, on développera l'avenir d'Ancelotti, bien sûr, avec toi, Karim Benzema, la situation actuelle. Il est en fin de contrat, ça, il doit prolonger.
Oui, il y a plusieurs. Oui, plusieurs. Kroos, Modric.
Moi, j'ai trouvé bon mercredi en Ligue des Champions, Benzema. Je trouve qu'il a fait un bon match. Lui, il n'a pas de très bonne note. Je trouvais très consistant hein, dans le jeu du Real. Face à une équipe très faible. Hein, mais
faible. Tu sais quel est le problème? Et moi, je suis la première victime de ça. C'est que j'ai en tête le Benzema de la saison dernière. On compare par rapport à celui de l'an dernier. Et celui de l'an dernier, il ne sera jamais à ce niveau-là.
Il rate une semaine par mois minimum. Donc
mais on peut dire ce qu'on veut, mais il a tellement investi sur l'objectif du Ballon d'Or. À tout niveau, il a joué à la limite, il a tout fait pour marquer tout ce qui pouvait être décisif, il l'a été, c'est un formidable joueur, t'as raison, et il n'est plus effectivement ce joueur-là, depuis le Ballon d'Or. Mais pour des raisons avant tout physiques, hein, parce que tu as tout à fait raison, Benzema ne va pas perdre son foot là maintenant à 34 ans.
Bien sûr que non, 35, mais cette petite pointe de vitesse qui manque, un petit peu moins de confiance en son physique, je vous rappelle que la semaine dernière, le week-end dernier, il n'a pas joué. Il a joué contre Liverpool, mais c'est difficile pour lui aujourd'hui d'enchaîner de matchs par semaine. Quoi.
Merci Fredo, on se retrouve demain soir dès 20h dans Génération After spécial Drôle de Dame avec Paulo Breitner, Julien Laurence et Yohan Crochet. T'écoutes tous les lundis soir?
Ah, le lundi, j'adore. Les deux heures avec les Drôles de Dame, j'adore.
Eh ben, c'est magnifique. T'es gentil.
C'est magnifique.
Il y a des vieux, puis il y a des plus jeunes.
On a les fines lames hein, lundi soir. Hein,
on apprend plein de choses.
Ouais, c'est pointu. C'était pointu ce soir également. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de parler de Monaco, Nice, Montpellier. On le fera toute la semaine. Nous sommes sur une semaine sans match. Équipe de France, c'est normal. Voilà pourquoi Gilbert est en vacances. Le gros malin. Il profite de la trêve internationale pour partir loin. On le salue bien. Merci Flo.
À demain.
T'es là cette semaine ?
Oui, demain.
Demain. Stéphane ?
Je rejoins Gilbert.
D'accord.
À Alençon.
Ou passe ce week-end Kim Kardashian d'ailleurs.
Tu peux la croiser. Kim Kardashian. On a parlé du triplé de Hakim El Hamdaoui hier avec Alençon. Non, même pas. C'était ça la faute. C'était autre chose que Kim Kardashian.
On aurait pu faire un. C'était pas dans l'after.
Hakim El Hamdaoui. Ok, ce temps-là.
Merci Stéphane. Merci à toi Flo également. Merci à Jérôme et Toto en régie. L'after de retour demain dès 21. Bye bye.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.